Chapitre 7. Un quitus en échange d'un pontife. La jambe maigre, la tournure erronière, le menton penché, Philippe de Poitiers se tenait devant Louis Hutin. « Sire mon frère, disait-il d'une voix tranchante et froide qui n'était pas sans rappeler celle de Philippe le Bel, je vous ai remis les conclusions de notre examen. Vous ne pouvez pas me demander de nier le vrai quand il éclate. » La commission nommée pour vérifier les comptes d'Enguerrand de Marigny venait d'achever la veille ses travaux. Pendant plusieurs semaines, Philippe de Poitiers, les comtes de Valois, d'Evreux et de Saint-Paul, le grand chambrier Louis de Poitiers, l'archevêque Jean de Marigny, le chanoine Étienne de Mornay et le chambellan Mathieu de Try, réunis sous la présidence sourcilleuse du comte de Poitiers, avaient étudié ligne par ligne le journal du Trésor, sur une période de 16 ans. Ils avaient exigé des explications et s'étaient fait produire justifications et pièces d'archives, sans omettre aucun chapitre. Or, cette enquête sévère, effectuée dans un climat de rivalité et souvent de haine, puisque la commission se partageait à peu près également entre adversaires et partisans de Marigny, ne faisait rien apparaître qui pût être retenu contre ce dernier. Son administration des biens de la couronne et des deniers publics se révélait exacte et scrupuleuse. S'il était riche, il le devait aux libéralités du feu roi et à sa propre habileté financière, mais rien ne permettait d'avancer qu'il eût jamais confondu ses intérêts privés et ceux de l'État, et encore moins qu'il eût volé le trésor. Valois, en proie à une déception furieuse de joueur qui a mal misé, s'était obstiné jusqu'au bout à nier l'évidence, et seul son chancelier Mornay l'avait à contre-cœur soutenu dans une insoutenable position. Louis X se trouvait donc en possession des conclusions de la commission prononcées à 6 voix contre 2, et pourtant il hésitait à les approuver. Cette hésitation blessait vivement son frère. « Les comptes de Marigny sont purs. Je vous en produis la preuve, » reprit Philippe de Poitiers. « Si vous souhaitiez un autre rapport que celui de la vérité, alors il vous fallait désigner un autre rapporteur que moi. » « les comptes, » répliqua Louis X. « Chacun sait bien qu'on leur fait dire ce que l'on veut, et chacun sait aussi que vous êtes favorable à Marigny. » Poitiers considéra son frère avec un mépris calme. « Je ne suis ici favorable à rien, Louis, sinon au royaume et à la justice. C'est pourquoi je vous présente à signer le quitus qu'il convient de donner à Marigny. » Toutes les oppositions de tempérament qui avaient existé entre Philippe le Bel et Charles de Valois réapparaissaient entre Louis X et Philippe de Poitiers. Mais les rôles, cette fois, était inversé. Naguère, le frère régnant possédait vraiment toutes les qualités d'un roi, et Valois auprès de lui jouait les brouillons. À présent, c'était le brouillon qui régnait, et son cadet qui montrait des aptitudes de souverain. Pendant 29 ans, Valois avait pensé « Oh, si seulement j'étais né le premier !» Et maintenant, Poitiers commençait à se dire, mais avec plus de justesse, « Je tiendrai certainement mieux la place où la naissance a mis mon frère. » Et puis, les comptes ne sont pas tout. D'autres choses ne me plaisent guère, dit Louis. Ainsi, cette lettre que j'ai reçue du roi d'Angleterre, me recommandant de reporter sur Marigny la confiance que notre père avait en lui et vantant les services qu'il avait rendus aux deux royaumes. Je n'aime point qu'on me dicte mes actes. Est-ce parce que notre beau-frère vous donne un sage conseil qu'il vous faut aussitôt refuser de le suivre ? Louis X détourna le regard et s'agita un peu sur son siège. Il répondait à côté des questions et visiblement voulait gagner du temps. « J'attendrai pour me prononcer d'avoir entendu Bouville, dont le retour m'est annoncé tout à l'heure, » dit-il. « Qu'a donc Bouville à voir dans votre décision ?»«
Je veux avoir les nouvelles de Naples et celles du conclave, » répondit le hutin avec énervement. « Je ne souhaite point aller contre notre oncle Charles au moment qu'il me trouve une épouse et qu'il me fait un pape. »
Ainsi, vous êtes prêt à sacrifier aux humeurs de notre oncle un ministre intègre et à éloigner du pouvoir le seul homme qui sache en ce jour conduire les affaires. Prenez garde, mon frère. Vous ne pourrez point maintenir demi-mesure. Vous avez bien vu que, tandis que nous étions à éplucher les comptes de Marigny comme ceux d'un mauvais serviteur, tout continuait en France à lui obéir, ainsi que par le passé. Il vous faudra ou bien le restaurer en toute sa puissance, ou bien l'abattre complètement en le tenant coupable de crimes inventés et en le châtiant d'avoir été fidèle. Choisissez. Marigny peut mettre une année encore avant de vous donner un pape,
mais il vous en donnera un conforme aux intérêts du royaume. Notre oncle Charles, lui, va vous promettre un Saint-Père pour chaque lendemain. Il n'ira sans doute pas plus vite, mais il vous sortira quelques Caetani qui voudra repartir pour Rome, et de là-bas, nommez vos évêques et tout régenter chez vous. » Il prit le quitus qu'il avait préparé et l'approcha de ses yeux, car il était fort myope, pour le relire une dernière fois. Ainsi approuve, loue et reçoit les comptes du sire Enguerrand de Marigny et le tient quitte, lui et ses oires, de toutes les recettes faites par l'administration du trésor du temple, du Louvre et de la chambre du roi. Il ne manquait au parchemin que le paraphe royal et la position du sceau. « Mon frère, reprit Poitiers, vous m'avez assuré que je serais fait père à la fin du deuil et que je devrais déjà me regarder comme tel. En tant que père du royaume, je vous donne conseil de signer. C'est accomplir un acte dicté par la justice. »
« La justice n'appartient qu'au roi !»
s'écria le hutin avec la soudaine violence qu'il montrait lorsqu'il se sentait en mauvais cas.
« Non, sire, répliqua calmement Philippe.
Non, sire, c'est le roi qui appartient à la justice, pour en être l'expression et la faire triompher. » Le même jour et vers la même heure, Bouville et Guccio atteignaient Paris. La capitale commençait à s'engourdir dans le froid et l'ombre tôt venue des soirées d'hiver. Mathieu de Tri attendait les voyageurs à la porte Saint-Jacques. Il était chargé de saluer Bouville au nom du roi et de le conduire aussitôt auprès de ce dernier.
« Et quoi, sans le moindre repos ?» dit Bouville. « Je suis aussi rompu que sale, mon bon ami, et je ne tire debout que par miracle. Je n'ai plus l'âge de tels équipés. Ne pouvait-on m'accorder de faire toilette et de dormir un brin ?»
Il était mécontent de la hâte qu'on lui imposait. Il avait imaginé qu'il souperait avec Guccio une dernière fois dans le cabinet privé de quelque bonne auberge, et qu'il se dirait alors toutes ces choses qu'on n'a pas trouvé le moyen de se confier en 60 jours de voyage, et qu'on éprouve le besoin de formuler l'ultime soir, comme si l'occasion ne s'en devait plus représenter. Au lieu de cela, ils furent forcés de se séparer en pleine rue, et sans même grande effusion d'amitié, car la présence de Mathieu de Tri les gênait. Bouville avait le cœur gros. Il ressentait la mélancolie des choses qui s'achèvent, et regardant Guccio s'en aller, il voyait s'éloigner les beaux jours de Naples, ce miraculeux moment de jeunesse dont le sort venait de gratifier son automne. Maintenant, le regain était fauché et ne repousserait plus.
« Je n'ai point dit assez merci à ce gentil compagnon pour tout le service qu'il m'a rendu et pour l'agrément que j'ai eu de son escorte, » pensait Bouville.
Il ne remarqua même pas, tant la chose allait de soi, que Guccio emportait le coffre contenant le restant de l'or des Bardi. Petite somme au demeurant, après tous les frais de l'expédition et l'obol au cardinal, mais qui permettrait au moins à la compagnie Ptolomei de percevoir sa commission. Cela n'empêchait point Guccio d'avoir lui aussi de l'émotion à quitter le gros Bouville. Chez les gens bien doués pour les affaires, le sens de l'intérêt n'entrave nullement le jeu des sentiments. Bouville, pénétrant au palais, il nota certains détails qui ne lui plurent pas. Les serviteurs semblaient avoir perdu l'exactitude appliquée qu'il avait su leur imposer du temps du roi Philippe, et cet air de déférence et de cérémonie qui prouvait, en leurs moindres gestes, qu'ils appartenaient à la maison royale. Le relâchement était visible. Toutefois, quand l'ancien grand chambellan se trouva en présence de Louis X, il perdit toute idée critique. Il était devant le roi et ne songeait plus à rien d'autre qu'à s'incliner assez bas.
« Alors, Bouville ?» demanda le hutin après avoir accordé à son ambassadeur une brève accolade. « Alors, comment est Madame de Hongrie ?»«
Redoutable, sire. Elle n'a cessé de me faire trembler, mais elle est bien étonnante d'esprit pour son âge. »«
Son apparence, sa figure ?»«
Fort majestueuse encore, sire, bien que les dents lui manquent tout à fait. »
Louis X eut un recul inquiet, et Charles de Valois, qui assistait à l'audience, éclata de rire.
« Mais non, Bouville, dit-il, le roi ne vous interroge point sur la reine Marie, mais sur Madame Clémence. »« Oh, pardon, sire, répondit Bouville en rougissant. Madame Clémence, mais je vais vous la montrer. »
Et il fit apporter le tableau d'Oderizzi qu'on sortit de sa caisse et qu'on posa sur une crédence. Les volets qui protégeaient le portrait furent ouverts. On approcha des chandelles. Louis s'avança prudemment, comme s'il craignait la confrontation. Puis il eut un sourire à l'adresse de son oncle.
Le beau pays que c'est là-bas, sire, si vous saviez !» s'écria Bouville en revoyant Naples sur les deux volets du tableau. « Le soleil y luit toute l'année ronde. Les gens y sont gais et partout on entend chanter. »« Alors, mon neveu, vous avais-je trompé ?» dit Valois. « Admirez ce teint, ces cheveux comme du miel, cette belle pose de noblesse et la gorge, mon neveu. Quelle belle gorge de femme !»
Lui-même, qui n'avait pas vu la jeune princesse depuis une dizaine d'années, se sentait rassuré et plein de contentement de soi.
« Et dois-je dire au roi, ajouta Bouville, que Madame Clémence est encore plus avenante à contempler au naturel ?»
Louis se taisait. Il semblait qu'il eût oublié leur présence. Le front en avant, l'échine un peu voûtée, il était absorbé dans un étrange tête-à-tête avec le tableau. Il faisait plus que l'examiner. Il l'interrogeait et s'interrogeait. Dans les yeux bleus de Clémence de Hongrie, il retrouvait quelque chose du regard d'Eudeline, une sorte de patience rêveuse, de bonté apaisante. Et le sourire, les couleurs même, n'étaient pas sans suggérer certains rapports de ressemblance avec la belle lingère du palais. Une Eudeline, mais qui fut née de roi, et pour être reine. Pendant un instant, Louis chercha à superposer au portrait, par souvenir, le visage de Marguerite de Bourgogne, son front rond et bombé, ses cheveux noirs qui frisaient, sa peau de brune, ses yeux facilement hostiles. Et puis ce visage s'effaça. Celui de Clémence reparut, triomphant dans sa beauté calme. Et Louis acquit la conviction qu'auprès de cette blonde princesse, son corps n'aurait pas à redouter de défaillance.
« Ah, elle est belle, elle est vraiment belle !» dit-il enfin. « Mon oncle, c'est bonne idée que vous avez eue, et aussi de commander cette image. Je vous en sais gré, hautement. Et vous, messire de Bouville, je vous donnerai 200 livres de revenus sur le trésor, le jour des noces. »«
Oh, sire !» murmura Bouville avec reconnaissance. « L'honneur de vous servir me récompense bien assez. »
Le roi marchait, tout agité.
« Ainsi, nous sommes fiancés, » reprit-il. « Nous sommes fiancés. » Il ne me reste plus qu'à être démarié.
Oui, sire, et il faut que cela soit fait avant l'été. C'est la condition pour que vous puissiez convoler avec Madame Clémence.
J'espère bien que je n'aurai pas si longtemps à attendre. Mais qui a posé cette condition ?
La reine Marie, sire, reprit Bouville. Elle a d'autres parties pour sa petite fille, et encore que vous soyez, certes, le plus glorieux à ses yeux et le plus souhaité, elle n'entend pas s'engager au-delà.
Louis X alors se tourna d'un mouvement interrogateur vers Valois, qui, lui-même, prit une mine étonnée. Pendant l'absence de Bouville, Valois, qui, en contact épistolaire avec Naples, se donnait les gants de tout arranger, avait certifié à son neveu que l'engagement était bien en train de se conclure, définitif et sans clause de délai.
« Madame de Hongrie vous a donc exprimé cette condition en dernier instant ?» dit-il à Bouville. « Non, mon seigneur. » Elle en a parlé plusieurs fois et elle y est revenue au dernier instant. Ah, ce n'est qu'un mot pour nous hâter un peu et se faire valoir. Si par aventure, tout à fait improbable d'ailleurs, l'annulation tardait davantage, Madame de Hongrie prendrait patience. Je ne sais, monseigneur, la chose était dite de manière bien sérieuse et bien ferme.
Valois ne se sentait pas fort à l'aise et tapotait du bout des doigts le bras de son siège.
Avant l'été, murmurait Louis. Avant l'été. Et en quel point avez-vous trouvé le conclave ?
Bouville fit alors le récit de son expédition en Avignon, sans trop insister sur ses mésaventures personnelles. Il rapporta les informations recueillies par Guccio, raconta son entrevue avec le cardinal Duez, et insista sur le fait que l'élection d'un pape dépendait avant tout de Marigny. Louis X écoutait avec une grande attention, tout en portant fréquemment les yeux vers le portrait de Clémence de Hongrie.
« Duez, oui, disait-il. Pourquoi pas Duez ? Il est prêt à prprononcer l'annulation. Il lui manque 7 voix françaises. Ainsi, vous m'assurez, Bouville, que seul Marigny peut venir à bout de cette affaire. »«
C'est mon sentiment absolu, sire. »
Le hutin se déplaça lentement vers la table où était posé le quitus préparé par Philippe de Poitiers. Il prit une plume d'oie, la trempa dans l'encre. Charles de Valois pâlit.
Mon neveu !
S'écria-t-il en s'élançant. Vous n'allez pas donner décharge à ce coquin !
D'autres que vous, mon oncle, affirment que ces comtes sont francs. 6 des barons désignés pour faire l'examen sont de cet avis. Il n'est que votre chancelier pour partager le vôtre.
Mon neveu, je vous supplie d'attendre. Cet homme vous trompe comme il a trompé votre père,
cria Valois. Bouville aurait voulu être hors de la pièce. Louis X fixait sur son oncle un regard buté, méchant.
Je vous avais dit qu'il me fallait un pape,
prononça-t-il.
Mais Marigny est opposé à Duez. Eh bien qu'il en choisisse un autre.
Pour couper à toute nouvelle objection, il ajouta hors de propos, mais avec une grande autorité de ton,
« Rappelez-vous que le roi appartient à la justice, afin de la faire triompher. »
Et il signa le quitus. Valois prit congé sans cacher son dépit. Il étouffait de rage.
« J'aurais mieux fait, pensait-il, de lui trouver une fille torse et mal avenante de visage. Il se montrerait moins pressé. » Ah, j'ai été joué, et Marigny va revenir en cour grâce aux outils que j'avais forgés pour l'en chasser.